Arrête. Arrête ça tout de suite. Tu sais rien. Tu connais pas ma vie.
Je voulais juste t'empêcher de faire une connerie.
Quelle connerie? Tu peux me dire?
Ok, ça va, c'est bon, Edith. Excuse-moi.
Non, c'est pas bon. Je fais pas une connerie. En fait, ce qui t'emmerde, c'est que je crois plus à tes beaux discours. L'union fait la force, toutes ces conneries de syndicalistes.
Les filles, vous m'entendez?
Yes, sir. I hear you.
Please, I need help.
Non, je déconne.
Allez. Una are two.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Prendre le large de la distance, du recul et expérimenter autre chose. C'est ce qu'elle fait depuis ses débuts. On se souvient de sa petite robe blanche sur ce bateau et ce morceau de Klaus Nomi. 35 ans plus tard, un autre navire t'a conduit vers une autre vie. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à Tanger à toutes et à tous.
Oui, c'est une héroïne de la vraie vie. Edith, ouvrière textile, dont l'usine a été délocalisée et qui choisit un reclassement au Maroc. Bonjour Sandrine Bonner.
Bonjour.
Edith, c'est vous dans ce beau film Prendre le large. Un contexte social très violent donne l'occasion à une femme de vivre autrement, une nouvelle expérience dans votre vie d'actrice riche et contrastée. À vos côtés ce matin, l'auteur de ce film. Bonjour Gaëlle Morel.
Bonjour.
Prendre le large, partir d'un contexte économique, poursuivre le destin d'une ouvrière et faire du cinéma avec ça. Paris réussi. Prendre le large sort mercredi prochain. Une nouvelle semaine de cinéma dominée par les docs, Wiseman en tête et autour, Polanski, Lanthimos, Marshall et Serraï.
Comme votre atelier est le prochain à fermer, nous allons devoir mettre un terme au contrat de travail qui vous unissait à la société.
Je suis licenciée?
Effectivement. Mettre un terme au contrat de travail se solde par un licenciement habituellement, et c'est la solution la plus classique. Mais il y en a d'autres. Comme notre groupe se délocalise, vous avez la possibilité de demander un reclassement, là où nous allons continuer la production. Au Maroc. Je me dois de vous informer de cette possibilité, mais ce n'est pas la solution la plus avantageuse pour vous.
Au Maroc?
Oui. Les coûts de production sont beaucoup plus bas.
Et je peux y aller comme ça?
Comment comme ça?
Ben, je veux dire... Je peux y aller, moi, comme ça, sans... Il n'y a rien à faire.
Enfin, il vous faut un passeport en cours de validité, bien entendu, et le contrat de travail. Mais ce n'est plus de mon domaine, après.
J'aimerais beaucoup.
Vous seriez intéressé?
Oui.
Dans ce cas, vous allez recevoir ce formulaire, en lettre commandée. Vous devrez l'emplir dans les 6 jours suivant sa réception et me le rapporter. Et en attendant, vous gardez votre poste. Vous serez peut-être affecté à un autre atelier, mais vous restez une employée du groupe. En acceptant ce reclassement, il est bien entendu que vous ne toucherez pas les indemnités de licenciement.
Licenciement ou reclassement, telle est l'alternative qui s'offre, si on peut dire, à Edith, ouvrière textile en France. C'est vous, Sandrine Bonner, et tel est le point de départ de ce film, Prendre le large, et je le disais, faire du cinéma avec ça. Le cas de figure, licenciement, reclassement, on l'entend tous les jours. Mais cette histoire, Gaëlle Morel, vous la connaissez bien, comme le milieu ouvrier de vous êtes issu.
Oui, je suis. Enfin, je connais bien le milieu ouvrier. Après, ouais. L'histoire du reclassement, ça n'a pas touché des gens proches, mais voilà.
Mais le milieu ouvrier a imprimé votre enfance.
Oui, je suis. Enfin, je viens de ce milieu-là, donc il me constitue par essence, quoi. Et j'en ai une connaissance comme ça, très empirique, puisque j'ai vécu à l'intérieur de ce milieu.
Et que votre père était ouvrier dans le textile.
Oui, mon père était ouvrier dans le textile, et d'ailleurs l'usine dans laquelle on filme à Villefranche-sur-Saône, dans le début du film, c'est l'usine où mon père a fait sa vie d'ouvrier en 3-8.
C'est un geste fort, ça, et symbolique, hein, de tourner dans cette usine-là.
Oui, et puis surtout, par rapport à l'économie du film, ça nous a permis d'avoir, par exemple, un décor à un prix négocié. Comme quoi ça peut aider aussi.
Non, mais j'imagine qu'il y avait quand même quelques fantômes dans cette usine, non?
Oui, évidemment. Et puis, moi, j'y avais été quand j'étais enfant, parce que je voulais voir où mon père travaillait. Et donc, j'avais un souvenir comme ça, très diffus, avec beaucoup de bruit, beaucoup de machines, beaucoup de gens. Et j'ai vu aussi l'évolution de l'usine, l'automatisation, qui fait que maintenant, il y a beaucoup moins de bruit, mais en même temps, il y a beaucoup moins de personnes, et il y a beaucoup moins de machines aussi. C'est-à-dire que là où avant, il y avait beaucoup d'ouvriers pour faire un travail, aujourd'hui, il y a un ouvrier qui fait faire ce travail-là, la machine. Donc ça, c'est un changement qui est très notable, et qui laisse à penser justement que la classe ouvrière est amenée à disparaître, certainement.
Chandrine Bonner, vous aussi, cette histoire vous parle, parce que votre père, aussi à vous, était ouvrier ajusteur.
Tout à fait, oui.
Vous avez pensé?
Oui, j'y ai pensé, forcément. Puis j'y pense encore plus quand je suis sur la mobylette, parce que mon père partait travailler en mobylette par tous les temps. Il faisait entre 30 et 40 kilomètres. Il se levait très tôt pour ces raisons-là, avec sa petite mob bleue. La mienne est orange dans le film, mais... Oui, j'aurais beaucoup aimé que mon père voie ce film, d'ailleurs. Et c'est ce que je disais à Gaël. Voilà. Moi, je le dédie à mon père, ce film, pour le coup. C'est pas moi qui l'ai fait, le film, mais c'est pas grave.
Vous avez dit, mon père a eu un travail de merde, il en est mort, il courait toujours après l'argent pour faire vivre ses enfants.
Oui. Ben oui, c'est une réalité, et je pense que c'est une réalité pour tout le monde aujourd'hui, encore pire aujourd'hui, je dirais, parce que avant il y avait des vraies, des vraies différences entre la classe ouvrière, les bourgeois et tout ça. Maintenant, on est tout se resserre, les gens courent de plus en plus pour se loger, pour se nourrir. Les frontières sont minces aujourd'hui.
Et cette décision folle que prend Edith dans le film, moi je voudrais vous poser une question très, très pratique, technique. Est-ce que vous avez un pourcentage d'ouvriers qui choisissent d'être délocalisés?
Il y en a très peu, ouais. Et sinon pas.
Donc c'est presque c'est un élément fictionnel, quoi.
Vous savez, il y a une phrase de Marguerite Duras que j'aime bien, elle dit « si j'ai imaginez ça, ça existe. » Voilà. Donc, j'aime bien cette idée parce que ça existe ou ça existera. J'ai envie de rajouter où ça existera. Parce que ça s'est vu beaucoup en Espagne, où des Espagnols partaient travailler au Maroc quand la crise a durement frappé l'Espagne. Et c'est proposé aux ouvriers. Ce qui s'est passé à Whirlpool, c'était une proposition d'aller travailler dans l'Est.
Avec 400 euros par mois.
400 euros, enfin, c'est-à-dire donc au salaire des locaux.
Ouais.
Et donc c'est une proposition qui est faite et qui est refusée dans la majeure partie des cas. Après, c'est quand on dit c'est une fiction, en effet, moi je trouve que ça avait une dimension romanesque. Et j'aime pas condamner la classe ouvrière au naturalisme le plus crasseux ou le plus misérable. Je trouve que le romanesque, il peut être accessible. En tout cas, moi, j'ai envie de le rendre accessible à mes personnages modestes.
Mais c'est une goutte de fiction dans un océan de réalisme presque documentaire à certains égards. Parce que ce que vous montrez sur la réalité du travail à Tanger, c'est quand même lourd et fort.
Oui.
Vous êtes renseigné, votre père vous a aussi renseigné sur ce qui se passait dans le textile, parce que je crois que le textile est le secteur le plus touché par les délocalisations.
Oui, c'est très sinistré. Moi, je vois la Villefranche-sur-Saône, il y avait essentiellement du textile, et la dernière usine, où il y en a quelques-unes qui sont encore en activité, mais par exemple du côté de Tarare, qui était vraiment la ville était orchestrée autour de cette industrie-là. C'est une ville sinistrée, vraiment. Et c'est vrai que ça a été relocalisé soit au Maroc, soit en Chine. Voilà.
Il y a un documentaire en ce moment dont on a parlé qui s'appelle Débobiner des hommes, qui parle de ce sujet-là, et c'est un très beau documentaire.
Sandrine Bonner, vous comprenez la décision de cette femme, il faut le dire, elle est seule, elle a perdu son mari, son fils est à Paris, dans une autre vie. En gros, elle a que son travail dans la vie. Et vous comprenez cette espèce d'acte, presque un suicide social?
Oui, je le comprends, mais suicide social, moi je pense qu'on est tous de toute façon conditionnés par le travail, on travaille tous, c'est un repère pour tout le monde, à commencer par la petite enfance où on inculque ça, avec l'école. Pourquoi on va à l'école? Bah, pour avoir un bon travail. Ça commence, à l'école, à la maternelle, l'âge de 3 ans. Tac, ça y est, on est dans la vie active. Et je la comprends parce que c'est quelqu'un qui est très digne et qui a envie de continuer à être utile. Et du coup, à contribuer à la société. Mmh. Et je comprends tout à fait son choix. Je le comprends doublement. Et ce qui m'épate dans ce personnage et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi cette audace. Cette audace de tout quitter, de changer sa vie. Sans avoir ni repère. C'est une femme qui n'a jamais voyagé. C'est une femme qui n'est pas... Enfin, qui est toute simple, qui a pas beaucoup de culture, et elle prend le risque de changer sa vie. Elle sait que de toute façon, sa vie va changer, forcément.
Et arrivée au Maroc, elle côtoie ce qu'on appelle le principe de réalité. On va vous faire écouter cet extrait où elle débarque dans cette usine.
Voilà, c'est ici que vous travaillerez.
Au même poste.
Pardon ? Parlez plus fort.
Je pensais que j'occuperais le même poste en France.
Vous avez inscrit couture dans le domaine de vos compétences, sur le contrat de reclassement.
Oui, mais je connais pas ces machines.
Najat vous montrera. C'est facile. La moitié des filles ici ne savent ni lire ni écrire et elles y arrivent. Najat !
Salam, madame Sarah.
كنقدم لك الخدامة الجديدة إيديت.
إيه. الجورية.
لا. ماشي القورية سميتها إيديت. الله يخليك نجات. إيديت سيفي نجات سيفي.
C'est dingue l'environnement sonore, Gaël Morel. Et même vous disiez dans le dossier de presse que vous avez mis la musique, enfin, parce qu'on leur passe de la musique en plus.
Oui, on met une musique tonitruante par-dessus ce bruit, pas pour couvrir le bruit, mais pour donner la cadence.
Quel type de musique ?
C'est vraiment du brouhaha, c'est-à-dire à ce degré-là, c'est pas de la musique nécessairement traditionnelle, c'est vraiment une radio qui passe à tue-tête, et c'est une façon comme ça de donner une cadence, quoi.
Et vous l'avez pas mis dans le film parce que vous pensez que c'est trop pour les spectateurs français?
Non, c'était trop, et puis surtout, il faut aussi qu'il y ait l'intelligibilité du dialogue, sachant qu'on n'allait pas faire hurler les acteurs non plus. Donc
c'est encore pire que ce qu'on voit dans le film, quoi,
oui,
la réalité.
Oui, c'est pire.
Sandrine Bonner, vous êtes un peu l'étrangère là-bas. Vous êtes un peu perçue par les autres comme celle presque qui pique leur travail.
Tout à fait. C'est l'immigration vue différemment. Le film est très intéressant pour ces raisons-là aussi. Comment on s'intègre dans un pays? Comment est-on accepté ou pas? Elle a des difficultés à être acceptée. Ce qui est normal en même temps. On se demande pourquoi. Pourquoi cette femme blanche,
non voilée,
vient piquer le travail des autres? Les gens ne comprennent pas. Elle aurait un salaire beaucoup plus important si elle restait en France. Donc ça crée des suspicions.
Ce qui est génial avec vous, c'est que quand vous jouez un rôle, on a l'impression que c'est vous. Enfin, je veux dire que vous feriez les mêmes choses, que vous réagiriez comme ça. Il y a une espèce de compassion par rapport aux personnes. Et nous, d'identification, parce qu'on se dit, ce que fait Sandrine Bonner et ce que fait Edith, ça serait à peu près la même chose, non?
C'est comme si mais c'est un joli compliment, ça. Merci.
Mais c'est vrai que vous épousez complètement la démarche de vos personnages, quoi.
Bah, c'est le but, hein. Oui, je sais bien. D'un acteur, d'une actrice, c'est pas toujours réussi, c'est vrai. Je réussis pas toujours.
Non, je parlais pas de vous.
Mais dans la vraie vie, vous pourriez partir comme ça.
Je la comprends en tout cas. Je comprends et il faut y croire, quoi. Et il y a des rôles qui demandent plus de mise à nu que d'autres. Et c'est un vrai beau cadeau que Gaëlle m'a fait, parce que c'est un personnage qui est totalement dans cette mise à nu. En plus, elle a plein de couleurs différentes. Elle est fragile. Et les choses la fragilisent, ensuite la renforcent. Il y a la fatigue qui est exprimée, il y a le poids des années de travail, il y a l'âge, il y a aussi tout le côté lumineux, parce que il y a de la lumière aussi qui arrive dans sa vie. Donc tout ça à jouer, c'est formidable, et surtout ne pas tricher. Enfin, ça aurait été ridicule de jouer une ouvrière en faisant l'actrice, si je puis dire.
Je me suis même demandé, mais la question vaut aussi pour Gaëlle Morel, si j'étais pas en face de Suzanne, qui aurait changé de prénom, mais au fond de Suzanne de À nos amours, au fond, cette femme pourrait être la Suzanne de Piala, dont le père était d'ailleurs dans le textile.
C'est pas
ah
fou.
Oui.
Ouais, bravo.
Oui, et on parlait du bateau aussi.
Dans alors le bateau, il y a quand même visuellement, Gaëlle Morel, et ça c'est au cinéaste dont on parle, il y a une image quoi quand même, il y a deux images.
Il y a une référence.
Oui, mais vous savez, je suis pas du tout, je suis très cinéphile dans la mesure où je vois beaucoup au cinéma, mais après je suis pas trop dans les références, et je pense que vous savez, c'est comme venir d'un milieu et on se définit par rapport à ça. Je pense que je suis imbibé de toutes ces références et qu'elles ressortent sans que je m'en rende compte. Après, concernant Sandrine, vous disiez qu'on a l'impression que c'est elle. En fait, moi, quand on a écrit avec Rachid O, mon co-scénariste, on pensait à Sandrine et on écrivait grâce à elle. On n'écrivait pas pour elle, mais grâce à elle. Et c'est la différence entre... Quand on écrit pour quelqu'un, c'est presque publicitaire. Et là, grâce à elle, c'est qu'elle, à la fois, elle permet grâce et... On pense, sans trop se tromper, qu'elle y réussira. Mais d'ailleurs, grâce aussi.
Ouais, vous avez dit, j'ai grandi avec Sandrine, avec son modèle.
Cette à partir de l'adolescence. Hein,
bien sûr. Et même, vous aviez des posters d'elle deux de ses films. Vous les avez vus, ça, Sandrine ?
Oui, je suis allée dans sa chambre.
Vous avez dédicacé.
C'est son côté Weinstein.
C'est vrai, j'ai fait
voilà
monter dans ma chambre.
Comment j'ai eu le rôle.
Sauf qu'on a fini sous le lit, en fait.
Parce que sous le lit, il y avait un magazine de première.
Oui, il y a toute ma collection de première quand j'étais adolescent. C'était vraiment un journal. Enfin, quand on vient d'un milieu populaire, on lit plutôt première. On lisait plutôt première à l'époque que les cahiers du cinéma. J'y suis passé plus tard. Mais mes premières, c'était vraiment un magazine que j'adorais. Il y avait des signatures incroyables. Il y avait Grisolia, il y avait Lavonia.
Mais qu'est-ce qu'elle exprimait pour vous, Sandrine, à ce moment-là ?
Et Sandrine, à ce moment-là, elle exprimait la possibilité de faire du cinéma en venant d'un milieu comme le sien.
C'est
comme
ce qui vous rassemble tous les oui.
Et elle était donc exemplaire pour moi. Et en plus, j'adorais ses films. J'adorais les réalisateurs avec qui elle tournait. Et je considère aujourd'hui que Sandrine, elle en est à un moment de sa carrière où elle incarne une histoire du cinéma français. Et elle incarne
une
histoire du cinéma français que j'aime.
Et
notre histoire à nous. Et une histoire du cinéma français que j'aime. Voilà.
Ça, c'est l'âge qui fait ça.
Non, pas seulement.
Vous aviez des référents pour ce rôle, et un très beau référent pour prendre le large, c'est Stromboli.
Oui. Alors, des fois, ça peut paraître bizarre, parce qu'on voit des références où j'en ai pas nécessairement vu, moi. C'est vraiment le bateau, pour moi, c'était vraiment visuel, et le plan du bateau. Après, évidemment, ça a résonné avec Piala, mais c'était pas ce dont je me rappelais plus en Piala. En revanche, mon film de chevet, parce que j'aime bien avoir toujours un film que je consulte tous les soirs, c'était Stromboli. Et surtout pour toute la scène du Rif, la cueillette... voilà, je me disais...
celle d'une femme en décalage avec un milieu.
Oui, en décalage avec un milieu, puis en décalage même avec presque ses désirs, et avec ce qu'elle dégage et qui elle est. Et je me disais, quand elle gravit ce volcan, elle n'est pas habillée pour ça. Et je me disais, pour qu'on ait la force, enfin pour qu'on sente l'enfer avec Sandrine, avec Edith, son personnage, il fallait qu'elle ne soit pas habillée pour ça quand elle est au milieu de ces femmes. Ces femmes sont habillées pour ça, et c'est comme si elles avaient des armures pour affronter ce travail, et d'un seul coup, elle n'a plus d'armure, elle a le corps exposé, et finalement, c'est par là qu'elle va lâcher, c'est physiquement qu'elle lâche. Et ça m'intéressait, et c'est vraiment venu, alors voilà, après on part loin, enfin, j'ai extrapolé depuis Stromboli.
Et il y a une autre légitimité par rapport au Maroc, c'est celle de votre co-scénariste, Rachid O, qui lui a vécu là-bas jusqu'à ses 30 ans.
Oui, qui est marocain, qui a eu la nationalité française bien tard.
Mais c'était important d'avoir cette assise aussi,
évidemment.
Là, cette vérité-là.
Évidemment, et j'avais commencé à écrire un scénario en lui volant des bouts de scène d'un de ses livres qui s'appelait Analphabète, et je me suis dit, au lieu de le voler, et c'est un ami, faisons-le participer au scénario, parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble depuis 25 ans qu'on est amis, et qu'on est vraiment inséparables, travaillons ensemble pour la première fois.
Arrivé à Tanger, au Maroc, logé dans une pension tenue par une femme et son fils, Edith entame son premier jour donc à l'usine, certes, mais ensuite vit cette vie avec cette mini-famille et se retrouve au hammam avec cette femme.
Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as fait m'aimer via le khiat. T'as que les flas dans le franche.
Ah, oh, bravo. Oh, le Maroc, je suis France, oui, je suis fait
m'aimer. Oui, je suis fait, ça aide.
Bravo, Lila.
Qu'est-ce que vous dites ? Il te trouve tendu pour une touriste. Alors, je lui ai expliqué que tu étais là pour le travail.
On me sent bien, en tout cas. C'est vrai qu'ici, le travail, c'est pas facile. Je me sens vidée, complètement tendue.
Ça te donne pas envie de rentrer ?
Comment ça ?
Mais aller chez toi, en France.
Ça va pas, t'es folle. Après tout ce que j'ai fait. Puis, de toute façon, ici ou là-bas, j'ai rien à perdre. Ici, au moins, je me sens moins seule. Le travail, pour moi, c'est important. Je pourrais pas passer ma vie sans travailler.
Je rêve de ça, moi. Vivre sans travailler.
Je tiens ça de mon père. Pas un jour d'absence de toute sa vie professionnelle. Même malade. Il se gavait d'aspirine. La fièvre, des courbatures, ben, il allait quand même à l'usine.
Ça ressemblait à quoi, ta vie en France ? Tu faisais quoi le soir, par exemple ?
Pas grand-chose. J'ai la cuisine. C'est un vrai plaisir. Mais bon, comme j'étais seule, c'était pas très motivant.
Il y a personne qui t'attend là-bas ? Personne ?
Il y a bien des gens qui comptent pour moi et pour qui je compte, mais... De là à m'attendre, non. Je suis pas sûre.
Mina est une femme divorcée, affranchie, libre dans un pays... difficile pour la condition des femmes, et paradoxalement, c'est une femme algérienne qui va vous mener vers la liberté.
Tout à fait.
C'est la belle idée du film.
Ouais, c'est vrai. C'est une très belle idée. Mais elles s'apportent mutuellement des choses, parce que d'une certaine manière, Edith apporte du rêve aussi à Mina. Sur la fin du film, à Mina et à cet enfant, à ce jeune garçon aussi. Elle rend les choses possibles.
Puis-je faire un parallèle avec votre vie, parce que je l'ai lu dans Sandrine Bonner, Le soleil me trace la route, chez Stock, sur votre vie que vous racontez à Gaillac Morgue, ce couple de journalistes. Et c'est une autre femme, Ouida, votre amie d'enfance, qui vous a aussi ouvert des portes. Elle était algérienne. Mmh. Est-ce que vous avez aussi pensé à elle ?
Non, j'ai pas pensé à elle directement, mais bien sûr, ça fait écho à elle aussi, évidemment.
C'est la première fois que vous allez dans le Maghreb, c'était avec elle.
Non, je suis d'abord allée au Maroc en vacances en 85, et je suis partie en Algérie ensuite avec elle en 89, je crois.
Mais c'est une femme qui vous a aussi affranchi.
Ah bah c'est une femme qui m'a. Enfin une femme, on avait le même âge.
Oui.
Hein,
ouais.
Elle m'a effectivement. J'ai appris. Enfin, elle m'a éduquée culturellement. Elle m'a. Ça a été un repère. Enfin, elle m'a appris beaucoup de choses. Et je pense que sans elle, je serais pas ce que je suis. Parce qu'elle m'a amené beaucoup de force, beaucoup de. Et dans le domaine de la culture et personnellement aussi. Elle contribue à ma sérénité, j'ai envie de dire.
Gaëlle Morel, c'était important, je le disais, que ce soit une femme qui mène votre personnage vers son affranchissement. Une femme marocaine.
C'était important que ce soit une femme, déjà.
Ouais.
Je voulais absolument pas qu'elle se révèle parce que d'un seul coup elle rencontre un homme
oui.
qui lui montre à quel point finalement elle est une femme qui mérite d'être regardée. Je voulais qu'elle prenne conscience qu'elle mérite d'être regardée par d'autres attentions, par exemple celle d'un fils aimant, celle d'une femme libérée, et que ces regards-là lui fassent redécouvrir qu'elle a un corps, qu'elle est une femme. Qui doit continuer sa vie, justement, qui qui n'est pas en, qui n'a rien fini, qui est au milieu de sa vie et qui doit se vivre comme tel. Et c'était vraiment capital que les hommes soient exclus de ça. Et quand je dis les hommes, je ne parle pas des fils, parce que c'est un film où il y a
deux fils en miroir. Ouais. Voilà. Très important.
Piala disait, elle ne joue pas pour elle, mais pour les autres. Vous avez pu le remarquer ça, à propos de Sandrine Bonner?
Oui, enfin moi j'ai remarqué beaucoup de choses. Oui. Moi je trouve que c'est une actrice qui... moi j'aime bien l'idée qu'elle vous saute au visage. C'est quelqu'un qui impose comme ça, au début du film, un masque terrible et dur sur la condition, justement, ouvrière. Je dirais que si on a du mal à se représenter cette condition-là, je trouve que dans les premières minutes du film, Sandrine porte un masque qui incarne à la fois cette souffrance et cette condition. Et après, pendant toute la durée du film, c'est comment elle va réussir à se débarrasser de ce masque pour aller justement vers la lumière. Et voilà, pour moi, c'est un peu une fable. Alors, il y a une dimension réaliste, mais c'est une fable que je voulais quand même optimiste.
Sandrine Bonner, c'est pas la première solitaire de votre filmographie, ni la première en marge de la société. Il y a eu un exemple assez extrême, le plus fort peut-être. C'est celui de Mona dans « Sans toi ni loi » d'Agnès Varda.
Bonjour.
Bonjour.
Bien dormi?
Ça va.
C'est bien. Tu sais, la route, je connais, hein.
T'as fait la route, toi?
Disons qu'on était transhumants. 6 mois à la montagne, puis 6 mois, on descendait dans le bas pays.
Oui, mais avec une femme et un troupeau, c'est autre chose. C'est plus un déménagement.
C'était pas le même type de route que ce que tu as fait, quand même. Chacun de vivre ses envies, hein. Puis voilà. Tu te balades seul? Tu souffres pas trop de la solitude?
Seul, c'est bien.
J'ai passé des Noëls seul. Le 25 décembre, j'ai voyé se baffrer. Moi, j'étais seul.
Mais quand il fait froid, c'est bien. Il n'y a pas trop de monde sur les routes. On trouve du stock plus facilement.
Ça dépend de la gentillesse de l'homme qui te prend ou qui te prend pas. Puis voilà, s'il te prend, tant mieux. Et s'il t'ennuie pas encore, encore mieux.
Je m'en fous, je bouge.
Peut-être que tu es plus libre que moi. Tant mieux pour toi. J'ai choisi un milieu. Un moyen terme entre la solitude et la liberté.
Moi, on m'a emmerdé pas mal de temps. Maintenant, c'est fini.
Toi, c'est la liberté totale, tu choisis, mais tu as la solitude totale. Mais il vient un moment où, si on continue, je pense, on se détruit. On va à la destruction. Et si on veut vivre, on arrête. D'ailleurs, tous mes amis qui ont fait la route et qui ont continué sont morts. Ou sont devenus des loques, alcooliques ou drogués, en général. Parce que la solitude les a bouffés complètement.
Sans toi ni loi, Daniel Zorda, vous souriez à un moment en écoutant les extraits. Vous souriez de quoi? De votre impertinence? De quoi?
Ouais, c'est bien écrit. Hein.
Ou de la pertinence, plutôt.
Oui, très pertinent. Non, la voix me touche aussi. C'est là où on sent que le temps passe. C'est vachement plus flagrant que si, mais je l'ai dit tout à l'heure dans une autre émission, pardon, de me répéter.
Non.
Mais comme on est en radio, ça me fait un effet. Quand il y a l'image, ça fait c'est pas la même chose. C'est moins, ouais, comment dire,
prégnant, c'est moins...
Ouais. Donc ça me faisait sourire aussi. Mais sans toi ni loi, enfin, c'est pas une femme libre.
Hein. Non.
C'est le contraire.
Ouais, ouais.
Alors que.
C'est presque suicidaire, Edith, comme démarche.
Oui,
presque.
Voilà, tout à fait.
Ouais.
Edith choisit une forme, même si elle l'analyse pas. En partant, c'est pas ça qu'elle... Mais elle est en construction de quelque chose, on va dire. Ce qui n'est pas du tout le cas de Mona.
Piala, encore, lui disait, dès qu'un acteur se met à réfléchir, il est foutu. Vous avez gardé ça en tête ou pas?
Je suis assez d'accord avec ça.
Ah oui.
Alors, je suis assez d'accord avec ça au moment de faire. Hein. Je pense qu'un acteur doit pas être trop idiot. Il faut bien qu'il sache ce qu'il fait et qu'il ait un peu une tête. Mais je dirais que ça, c'est un travail qui se fait en amont. Une fois qu'on est sur le plateau, on n'est plus là à penser, on est dans le faire. Moi, j'aime bien ce terme action. C'est parce que c'est concret, ça veut dire allez, vas-y, maintenant, à toi de jouer, quoi. C'est le cas de le dire. Et on ne doit pas penser, on doit être, on doit, comment dire, incarner et ne plus penser, justement.
Et vous incarnez, donc, Edith, dans ce beau film de Gaëlle Morel, Prendre le large, qui sort mercredi prochain.
Prenez le large, il faut prendre le large.
Ouais, on se retrouve pour les sorties après Jessie Reyes.
Figures, I gave you ride or die, and you gave me games. Love figures, I know I'm crying, 'cause you just won't change. Love figures, I gave it all, and you gave me shit. Love figures. I wish I could do exactly what you did. I wish I could hurt you back. Look, what would you do if you couldn't get me back? You're the one who's gonna lose something so special, something so real. Tell me, boy, how in the fuck would you feel if you couldn't?
C'est la folie, Laurent. Il y a 20 films qui sortent. On va en évoquer 11, n'importe quoi. On va commencer par Braguino de Clément Cogitor, artiste français remarqué avec Ni le ciel ni la terre. Il est en Afghanistan. Cette fois, il est au milieu de la taïga sibérienne, à 700 km du moindre village, où se sont installées deux familles, les Braguin et les Kilin. Aucune route ne mène là-bas. Elles y vivent en autarcie selon leurs règles et principes. Au milieu du village, une barrière, les deux familles refusent de se parler, et sur une île du fleuve, une autre communauté se construit, celle des enfants, libres, imprévisibles, farouches. Donc Braguignou entre doc, fantomatique, métaphysique, étrange, et comme l'a écrit Bruno de Ruisseau dans Les Arocs, un Éden au bord de la chute.
C'est pas mal vu, effectivement. Clément Cogitor, c'est quelqu'un qui vraiment est intéressant, c'est, vous le dites, un artiste. C'est-à-dire, c'est effectivement pas qu'un cinéaste, c'est aussi un artiste plasticien, c'est quelqu'un dont on peut voir les installations en ce moment au bal à Paris, installation d'ailleurs en lien direct avec Braguino, ça montre des
aspects... Braguino ou l'installation impossible, ça s'appelle.
Voilà, exactement. C'est effectivement, en tout cas, à mon sens, 50 minutes de beauté documentaire absolument éblouissante d'intelligence et de luminosité. parce qu'il y a un côté, évidemment, on n'est pas très très loin de, du cinéma d'Herzog, par exemple. Herzog qui dit, souvenez-vous, quand on parle de la nature, il faut toujours se souvenir que la nature s'en fout. Alors effectivement, la nature, elle se fout de ces deux familles qui sont en train de s'opposer de façon sidérante, c'est-à-dire ils sont loin de tout. Ils ont décidé eux-mêmes de partir Into the Wild, pour reprendre le titre d'un film célèbre, dans le désert, en quelque sorte, de la taïga sibérienne, donc dans un environnement qui n'est pas d'une simplicité folle. Il y a notamment une course à l'ours qui est extraordinaire, à l'ours sauvage, une chasse à l'ours. Et en même temps, il se joue là, effectivement, des choses humaines sur comment cohabiter ou comment ne pas cohabiter, comment est-ce qu'on arrive à ne pas s'entendre alors qu'on est revenu presque à l'état sauvage. Ça dit beaucoup de choses sur nous-mêmes, beaucoup de choses sur notre inhumanité ou sur notre humanité.
Le fidèle de Michael Roskam, troisième long métrage donc de ce réalisateur flamand, auteur de l'incroyable Bullhead, et moins fort mais passionnant Quand vient la nuit. Une histoire d'amour fou. Entre une pilote automobile, c'est Adèle Exarchopoulos, et un braqueur, Mathias Kunhardt, qui est son acteur fétiche. Ce qui fonctionne assez bien au début d'ailleurs, attirance et passion, et qui devient un peu plus invraisemblable dans ses retournements de situation, notamment la deuxième partie du film, puisque l'amoureuse en question devra prendre des risques, beaucoup de risques, pour se battre avec lui et contre le reste du monde. L'histoire d'amour qui se transforme en polar et puis se termine en grand mélo, avec ses rebondissements pas très crédibles. Mais finalement, le plus étonnant dans l'histoire, c'est un, la croyance de ces deux acteurs qui sont assez incroyables tous les deux, Mathias Kunhardt et Adèle Exarchopoulos, et deux, la croyance du réalisateur qui assume jusqu'au bout son mélo. Ça s'appelle « Le fidèle ». Le Polanski, Laurent, le nouveau roman oui. De Polanski s'appelle « D'après une histoire vraie » avec Emmanuel Seigné et Eva Green. Il a été adapté par Olivier Assayas, d'après le livre de Delphine de Vigan, qui est de l'attirance, répulsion entre une auteure et son admiratrice. Ça rappelle All About Eve, ça.
Ça serait une très très belle référence. C'est un peu trop, peut-être, je pense, quand même, pour Polanski. C'est vraiment lui prêter des... Non, c'est pas, on peut pas mettre la barre à ce niveau-là. C'est un peu embêtant parce que ça fait 9 films, depuis 92, 9 adaptations littéraires pour Polanski. J'ai rien contre les adaptations littéraires. Non, j'ai rien contre les adaptations littéraires. Mais je me dis que, est-ce que, après tout, Polanski n'a-t-il pas suffisamment lui-même d'univers singulier, particulier, il l'a montré, pour se cacher en permanence derrière le nez, le masque d'auteur? Pas toujours, d'ailleurs. Des grands auteurs. Ben non, justement. Moi, je trouve qu'il s'y perd plutôt qu'il s'y retrouve, et nous avec, d'ailleurs. Et encore plus quand c'est un livre finalement assez faible, parce que le bouquin de Vigan, c'est convenu et convenable sur les affres de la création littéraire, avec la romancière et son double névrosé, névrotique, vampirique. Effectivement, sur le papier, on peut dire que c'est du Polanski, mais alors c'est se faire de Polanski et du cinéma de Polanski et de l'univers de Polanski, finalement, une vision assez rabougrie. C'est ça qui va plus trop, là, en l'occurrence. En plus, quand on sait qu'Assayas a mis sa patte, alors là, on se demande où sont les pattes et de Polanski et d'Assayas. Ne reste que de Vigan et un improbable casting masculin dont on ne dira rien.
Ah bon?
Non.
Ex Libris, The New York Public Library, le retour du grand Frédéric Wiseman, qui a investi donc la troisième plus grande bibliothèque du monde, dans 3 arrondissements de la ville de New York, et qui participe à la cohésion sociale de la ville, cours de langue pour les immigrés, cours d'informatique et aide à la création. Le tout dure 3h17, la durée que être juste, dit Wiseman.
Exactement. Il a absolument raison, c'est même trop court. Il a 87 ans, Wiseman. 87 ans, 40 films en 50 ans, sur toutes les facettes institutionnelles de nos sociétés occidentales, on va dire. Cette bibliothèque de New York, faut le savoir, elle est répartie, c'est là, donc la troisième du monde, vous le disiez. Il y a 92 sites dans la ville. C'est pas comme la bibliothèque François Mitterrand, il y a un lieu, là, c'est 92 endroits dans une ville où il y a de la bibliothèque. C'est-à-dire qu'il y a 92 endroits forcément différents, socialement, culturellement, où il y a cet accès public à la culture, au savoir, évidemment à l'internet. Donc le film Wiseman se pose les vraies et bonnes questions, c'est-à-dire l'accès égalitaire à la culture et au savoir. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait d'un point de vue très prosaïque sur le financement, quand les financements publics, merci Trump, baissent, il faut chercher dans le privé, mais sans perdre son âme? Ça, c'est une vraie question. Et puis, oui, l'accès égalitaire. Alors, c'est toujours du Wiseman, pas de musique, génial, pas de commentaires, génial, mais effectivement, c'est du grand cinéma, c'est-à-dire c'est tout le temps du montage, et au bout de 3h17, on a encore envie de dire encore, monsieur Wiseman, tellement cette plongée est passionnante.
Un autre doc, Carré 35 d'Éric Caravaca. Carré 35, c'est tout d'abord l'histoire d'un secret. Sa sœur Christine a été le premier enfant de ses parents. C'était avant sa naissance et celle de son frère. Son existence et sa disparition leur ont été cachées. Alors Caravaca enquête à partir de films en Super 8, de photos, de documents officiels et d'archives historiques, parce que le contexte est particulier. C'est celui de l'Algérie à un moment de la décolonisation. Et alors là, il va tenter un parallèle entre des exécutions sommaires dans les rues face à l'insouciance de sa famille. C'est une sorte de déni historique face à un déni familial. Je trouve ça pas très convaincant, de même que le parallèle entre la disparition de sa sœur et l'assassinat des enfants handicapés par les nazis, c'est très limite face au reste du film, et notamment au déni de sa mère, à qui il pose des questions sur cette sœur, avec beaucoup de ténacité et de douceur aussi. Sa mère, une personnalité fascinante, et qui est l'énigme de ce film, très courageux.
Oui, oui, non, mais c'est très très bien les acteurs qui font des documentaires sur leur famille. Ça peut produire de très très belles choses. Là, Carré 35, je suis comme vous, je suis dans une sorte de doute, parce que autant ce secret familial se suffisait, à mon avis, à faire 1h30 de beaux documentaires, effectivement, sur cette mère qui n'a jamais fait son deuil et qui, du coup, a trompé, a menti à ses enfants vivants, qu'elle a manifestement fait pour essayer de refaire vivre cette fille Christine. Ça suffisait, 1h30, ça suffisait, enfin, 1h30, c'était bien. Et pourquoi parler de la Shoah? Pourquoi parler de la décolonisation? C'est, comme vous le disiez, forcé, outré. Et du coup, on perd ce fil documentaire intime fort pour aller vers des choses. On a envie de dire à Eric Caravaca, non, on fait pas 5 minutes sur la Shoah, on fait pas 5 minutes sur la décolonisation française. On fait, en revanche, oui, 1h35 sans problème sur un beau, entre guillemets, secret familial.
Oui, un portrait de femme, vraiment, c'était entièrement suffisant.
Absolument. Moi, j'ai adoré, si je puis me permettre.
Ah, bon, la parole est à la défense.
Je l'ai vu, dans le cadre de l'œil d'or.
Oui.
Voilà. Mais je ne veux pas en dire, parce que c'est. Mais j'ai trouvé ce film bouleversant, bouleversant. Et d'ailleurs, on en a beaucoup discuté avec notre jury. C'est un film, moi, qui m'a énormément marqué, et je suis sortie en larmes. Ça m'arrive rarement, rarement. J'ai été totalement bousculée par ce film. Voilà, j'ai envie de le dire. Bravo, Eric Caravaca.
Bon, très bien. C'est un jury cannois, hein, c'était à Cannes cette année.
Mémoire d'un condamné de Sylvestre Menzer. C'est aussi un doc, là, Laurence, sur le 25 novembre 1910, au nom du peuple français, la cour d'assises déclare Jules Durand coupable de complicité d'assassinat et ordonne qu'il ait la tête tranchée sur la place publique. C'est une grave erreur judiciaire sur laquelle il revient.
Oui, c'est une sorte d'affaire Dreyfus appliquée au monde ouvrier, parce que la justice est rendue, certes, au nom du peuple français, mais plutôt au nom du patronat français qui essayait ainsi d'éliminer un syndicat naissant sur le port du Havre et pour les dockers notamment, et Dieu sait si le syndicalisme des dockers est devenu important par la suite. C'est Jules Durand lui-même qui a vraiment commencé à faire les choses. Le problème, c'est qu'il est réhabilité en 1918. Il ne subit pas la peine de mort. Il est réhabilité, mais entre-temps, il est devenu fou et il meurt en 1926. Le documentaire de Sylvestre Menzer a la bonne idée d'aller sur les lieux mêmes où vivait Durand, de réinjecter de la mémoire et du patrimoine dans ce Havre dont la mémoire ouvrière n'est quand même pas totalement disparue, avec notamment la petite fille de Durand qui témoigne. C'est un beau documentaire, classique dans sa forme, mais c'est un documentaire nécessaire.
Les conquérantes de la réalisatrice suisse Petra Björdina Volpe, sur un épisode de la lutte des femmes, un combat pour obtenir le droit de vote. Je ne le savais pas, mais la Suisse a été l'un des derniers pays à l'accorder aux femmes en 1971. Épisode historique, donc, en plein flower power et révolution sexuelle. Un petit village suisse vit à l'âge de pierre. L'héroïne est une femme au foyer, servile et accomplie jusqu'à sa prise de conscience qui va peu à peu contaminer toutes les autres femmes du village et qui vont organiser une grève des épouses au foyer. Facture classique de mise en scène, dialogue cliché par-ci par-là, mais un récit plutôt bien mené avec quelques épisodes de comédie croustillants comme cette réunion d'informations sur le clitoris, et en prime une femme qui va se transformer sous nos yeux avec cette belle et convaincante actrice Marie Lundberger. On passe maintenant à un autre destin de femme, jeune femme, de Léonore Serrail. La jeunesse du film, dit-elle, c'était de faire le portrait d'une femme singulière confrontée à la solitude dans une grande ville. Le temps d'un hiver, c'est Paris. Un parcours entre galère et galère, petit boulot et incruste. Elle est fantasque, instable, fidèle et épuisante à l'arrivée.
Alors, dans le concert de d'éloge cannois, on va faire une petite note discordante, pas trop, qu'on se rassure quand même. Il ne s'agit pas de dire que c'est un mauvais film, bien au contraire, c'est La caméra d'or, effectivement. Le film est porté littéralement par une actrice, Laetitia Dosch, qui est extraordinaire, il faut le dire, qui fait, on appelle ça une performance. Voilà. Alors, le problème de la performance, c'est qu'elle a ses beautés et peut-être aussi ses limites. Et là, en l'occurrence, pour moi, en tous les cas, la limite, c'est la presque invraisemblance du personnage. C'est-à-dire qu'on nous l'a fait passer pour quasiment presque folle, enfin en tous les cas au début du film, et puis elle va vers une sorte de presque normalité qu'on a du mal à intégrer. Au fond, il y a derrière ce film, par exemple, la Gina Rowlands, chère à Cassavetes, dans Love Streams, et on voit bien que c'est sur le fil tendu, c'est-à-dire c'est très compliqué de me montrer la folie douce d'un personnage. Je suis pas sûr que le film y arrive complètement. Il y a incontestablement au milieu une actrice dont on continuera à parler, dont on aura encore parlé.
Mais on a très peu de temps, Laurent. Qu'est-ce qu'on fait ? La mise à mort du cerf sacré ou Carbone ?
C'est comme vous voulez. On peut dire que Carbone, il faut le fuir. Donc passons à la mise à mort du cerf sacré. C'est tout.
D'accord. Donc de Yorgos Lanthimos, cinéaste grec, mais film en anglais. Colin Farrell, Nicole Kidman, lui est brillant chirurgien, elle ophtalmologue respectée. Ils vivent apparemment heureux jusqu'à l'arrivée d'un jeune garçon, Martin, qui va bousculer cet ordre familial. Mise en place très intrigante, décor glacial, mise en scène à l'avenant. Faux bonheur bourgeois qui va vite se craqueler donc jusqu'à l'arrivée de cet adolescent. Et puis peu à peu, cette mise en scène tourne à vide et cette menace initiale se dilue dans ses effets formels.
Oui, ras-le-bol de ce cinéma qui nous met à mal en nous méprisant à ce point-là.
J'aimerais enfin, Laurent, revenir sur un coup de cœur. Je ne sais, vous n'avez pas aimé ce film, mais j'espère que vous aurez la générosité de me laisser m'exprimer. Il s'agit de Corps et âme, de la réalisatrice hongroise Ildikó Ewé, inédit. Une très étrange histoire, finalement, d'amour entre le directeur d'un abattoir et la contrôleuse de qualité. Un rêve commun les réunit, chacun dans leur solitude. Voilà, je voulais en reparler parce que c'est un film fragile et il risque de disparaître des écrans.
Vous savez ce que j'en pense.
Deux cadeaux, Laurent.
Oui, d'accord. Le Festival d'Arras, on l'oublie, mais il est en ce moment, il faut y aller. Deux cadeaux. Le premier pour vous, Gaël Morel, c'est le nouveau dernier film de Philippe Garrel qu'on a nous beaucoup aimé.
Super, moi aussi j'ai vu.
À Cannes, absolument. Avec Eric Caravaca, Esther Garrel et Louise Cheviot, très beau trio d'acteurs.
Ouais, je trouvais pas tant Eric Caravaca.
Et c'est chez Blackout. Et puis pour vous, Sandrine Bonner, on va vous offrir le livre de quelqu'un que vous connaissez, je crois, qui s'appelle Raymond Depardon. C'est le dernier catalogue de sa dernière exposition très belle qui s'appelle Traversée, qui est en ce moment à la Fondation Cartier-Bresson et qui est une traversée dans son propre univers avec de très beaux textes de lui. C'est aux éditions Xavier Barral, Fondation Cartier-Bresson.
Merci beaucoup, c'est gentil.
Merci à tous deux. Merci Sandrine Bonner, merci Gaël Morel. Votre film s'appelle Prendre le large. Il sort mercredi prochain. On va se quitter avec vous en générique et je vous fais signe.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Marine Beccarelli s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne Winfeld.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Gaël Morel, j'y étais.
Et moi, Sandrine Bonner, j'y étais aussi.